histoire.
Franck Ferrand.
Une émission spéciale cet après-midi à l'occasion du 800e anniversaire de la naissance de Saint-Louis. Nous vous retrouvons Franck Ferrand à la Sainte-Chapelle. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Nous avons beaucoup de chance. Vous savez, à chaque fois que nous sommes comme ça en déplacement, je me dis que c'est une chance inouïe que de faire ce métier et de voir dans des conditions très privilégiées quelques-uns de nos plus beaux lieux, de nos plus beaux monuments. Nous sommes donc devant l'entrée de la Sainte-Chapelle en plein cœur de Paris. Nous sommes au milieu de l'île de la Cité, bien entendu, au cœur même de ce qui aujourd'hui est devenu le palais de justice, qui autrefois était le palais de la Cité, bien entendu. Et je me trouve à l'instant même dans le porche bas de la Sainte-Chapelle. Je dis le porche bas parce que cette Sainte-Chapelle est une chapelle palatine, c'est-à-dire qu'elle est à deux niveaux, à deux étages. Et pour tout vous raconter, Céline, la toute première fois que je suis venu ici, j'étais tout jeune, je devais avoir 11 ou 12 ans, c'était l'une de mes premières visites tout seul comme un grand dans Paris, et donc je suis venu voir la Sainte-Chapelle. Ça me paraissait la chose à voir absolument et en priorité. Donc je suis entré dans ce qui va nous accueillir dans un instant, dans cette chapelle basse, et je me suis dit, ah oui, c'est ça la Sainte-Chapelle. Et j'allais ressortir quand une dame m'a dit, mais attendez, attendez, il faut que vous preniez l'escalier, vous allez voir, il y en a une autre au-dessus. Évidemment, l'éblouissement était à venir et comme je n'étais pas prévenu, l'éblouissement a été d'autant plus fort, d'autant plus extraordinaire. On est bien entendu dans un des chefs-d'œuvre, pour ne pas dire même dans le chef-d'œuvre du gothique. On est à l'époque de Saint-Louis, Saint-Louis qui fait l'objet en ce moment de toutes les attentions. Vous savez qu'on célèbre cette année le 800e anniversaire de la naissance de Saint-Louis. Nous lui avons d'ailleurs consacré ici même déjà au moins deux émissions. Une grande exposition a lieu tout près d'ici, dans ce même palais de la Cité. Une exposition à la conciergerie qui a été ouverte il y a deux jours et qui déjà est un triomphe. Les gens font la queue jusqu'à la Seine pour entrer dans cette exposition absolument magnifique, dont le conservateur Pierre-Yves Le Pogam est avec nous. Bonjour Pierre-Yves Le Pogam.
Bonjour.
Vous devez être heureux que Saint-Louis fasse ainsi recette.
Un peu fatigué, mais très heureux avec une exposition donc qui vient d'ouvrir hier soir et qui déjà est un grand succès, je pense, dans les médias, mais aussi qui va être un succès tout de suite, je pense, auprès des plus nombreux.
Alors, cette exposition, nous la détaillerons tout à l'heure. On en fera, si je puis dire, avec vous, une visite virtuelle, puisqu'on restera ici, à la Sainte-Chapelle. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'entrer dans cette Sainte-Chapelle, d'entrer dans la chapelle basse, qui est polychrome. C'est ce qui frappe le regard, hein, au premier coup d'œil. Ces extraordinaires nervures, cette forêt gothique, toutes ces croisées d'ogives qui sont soulignées de peintures dorées, et puis alors des pigments rouges et bleus principalement. Alors, tout ce qui est bleu est semé de lys, puisqu'après tout, nous sommes ici dans la chapelle des rois de France, et notamment de Saint-Louis, et puis tout ce qui est rouge est semé de tours, et ça, c'est le souvenir, évidemment, de Blanche de Castille, la mère de Saint-Louis.
Oui, tout à fait. Blanche de Castille, vous le savez, était donc sa mère, mais elle a été aussi en même temps la régente du royaume pendant la minorité de Saint-Louis. Saint-Louis est devenu roi très jeune, à 12 ans, et elle a donc assuré au fond la continuité du pouvoir avec une main de fer dans un gant de fer, si je puis dire. C'est une femme de grand caractère, mais Saint-Louis d'ailleurs lui faisait entièrement confiance, puisque quand il est parti à la croisade, juste après la construction de la Sainte-Chapelle, il lui a à nouveau confié les rênes du royaume, c'est dire son rapport privilégié.
Alors dans un instant, je vais vous raconter dans quelles circonstances est né ce chef-d'œuvre, cette Sainte-Chapelle extraordinaire. Pour l'instant, décrivons ce que nous avons sous les yeux d'une certaine manière. Alors, c'est une chapelle basse qui porte bien son nom. Elle a un côté un peu surbaissé, hein. Elle est assez massive. On pourrait dire, lorsqu'on voit les arcs qui sont sur la paroi sud, qu'elle est même un peu surbaissée, comme on dit.
C'est tout à fait le cas. Elle est assez étrange, d'ailleurs, comme architecture. Cette architecture ne se comprend qu'en fonction de la partie supérieure, en réalité. Par exemple, le fait qu'on ait cette grande nef centrale et puis ces petits bas-côtés, tout étroits, avec ce qu'on appelle des étrésillons, ces arcs qui renforcent la partie centrale, c'est très étrange. Mais en fait, tout ça ne se comprend que pour une raison, c'est qu'il faut contributer, soutenir la partie supérieure.
Et voilà, en fait, nous sommes dans le soubassement du grand œuvre, de cette architecture de verre tout à fait extraordinaire que nous allons décrire dans un instant, qui est, encore une fois, je pense qu'on peut dire que c'est un choc. On ne saurait trop conseiller à nos auditeurs, à tous ceux qui ne connaîtraient pas la Sainte-Chapelle, d'y venir. Et puis ceux qui la connaissent peuvent y revenir, car c'est à chaque fois le même ravissement. On est ici dans une architecture incroyablement audacieuse pour l'époque où elle a été édifiée. On était au XIIIe siècle. Alors, c'est décorations polychromes dont je parlais, tous ces murs peints, ces colonnes peintes, ces croisées d'ogives. On peut dire, il faut expliquer que le ciel, si je puis dire, est semé de lys. Hein, on est des lys d'or sur fond d'azur. Est-ce que tout ça est d'époque ou est-ce que c'est une restauration ?
Alors, cette partie basse a été particulièrement restaurée au milieu du 19e siècle. L'ensemble de la chapelle a été rénové, restauré fondamentalement, d'abord sous Louis-Philippe et ensuite sous Napoléon III, donc au milieu du 19e siècle. Mais c'est également un moment où la partie basse donc avait beaucoup souffert, puisqu'il y avait eu une grande inondation. Il n'y a pas qu'aujourd'hui qu'on craint les grandes crues de la Seine. La Seine avait débordé de son lit à la fin du 17e siècle, ce qui fait que la chapelle basse avait été très endommagée. Par conséquent, les peintures que nous voyons, les vitraux dans cette partie basse sont totalement du 19e siècle. Ce qui est d'ailleurs assez amusant parce qu'il y a à la fois une reconstitution un peu de l'esprit du Moyen-Âge.
On a un peu l'impression d'être à pierre fond.
Voilà, il y a un peu ça. Avec des petites erreurs ou des petites choses amusantes. Je vois là, par exemple, vous voyez, c'est Anne et Joachim qui sont les parents de la Vierge. Bien sûr, c'est normal. On est dans une chapelle basse qui est consacrée à la Vierge. Et on les représente au moment de la rencontre à la Porte Dorée. Et en général, au Moyen-Âge, eh bien, cet épisode est représenté au moment où les deux époux s'embrassent. Ce qui signifie qu'ils se retrouvent et qui sont très contents de se voir. Là, comme on est au 19e siècle, on est un petit peu plus prude et ils se donnent tout juste la main. Voilà, donc c'est pour vous dire que le 19e siècle oui, a une interprétation un peu différente du Moyen-Âge.
Pas tout à fait littérale.
Voilà.
Je profite de l'occasion pour signaler à nos auditeurs que la chapelle est ouverte en ce moment même. Et donc, si vous entendez un peu de bruit ou des gens qui parlent, bien c'est parce qu'il y a des visiteurs à l'heure même où je vous parle. Nous faisons d'ailleurs de très agréables rencontres. Bonjour Catherine Lalanne.
Bonjour Franck Ferrand.
Alors, je ne vous présente plus. Vous êtes l'incarnation même du magazine Pèlerin, on peut le dire. Pèlerin qui consacre ce numéro, le numéro de cette semaine, à cette Sainte-Chapelle avec des photos à couper le souffle.
C'est vrai, nous avons décidé de prendre de la hauteur et de montrer ce joyau du gothique d'en haut. Ça fait 5 années que notre magazine a entrepris cette démarche photographique de montrer à ses lecteurs du ciel le patrimoine sacré, les cathédrales, les joyaux du gothique. Et je dois dire qu'à la Sainte-Chapelle, nous nous en sommes donnés à cœur joie.
Mais là, les photos de Stéphane Compoint, Dieu sait que nous y sommes habitués puisque nous avons déjà consacré un certain nombre d'émissions à Notre-Dame de la Garde, à Notre-Dame de Paris, bien sûr, à ces photographies qui ne sont pas toutes tout à fait vu du ciel, hein, qui sont des photographies en lévitation d'une certaine manière. Mais alors là, ce que vous nous montrez, c'est tout à fait incroyable. On a l'impression de gigantesques mandalas.
Tout à fait. Vous avez raison d'insister. Nous n'écrasons pas le bâtiment d'en haut. Le concept de Stéphane Compoint, c'est de prendre de la hauteur. Alors j'explique pour les auditeurs. Il accroche son appareil photographique à un ballon d'hélium qu'il téléguide du sol et il monte progressivement. Il tutoie le monument et c'est un procédé sans danger, puisque le ballon est mou, c'est une surface molle, donc il peut s'approcher au plus près des pierres et des vitraux sans faire de dégâts, il est silencieux. Et alors là, à la Sainte-Chapelle, on va voir comment on peut lire dans la pierre, en vue du ciel, le projet de Saint-Louis.
Alors tout à l'heure, bien entendu, nous allons monter dans cette chapelle haute qui justifie la visite et qui justifie la réputation mondiale de ce monument. Mais pour le moment, j'aimerais entrer dans le détail de sa construction. Nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous vous retrouvons, Franck Ferrand, pour cette émission spéciale sur l'île de la Cité à la Sainte-Chapelle.
Oui Céline, nous sommes toujours dans le cœur de cette chapelle basse de la Sainte-Chapelle, donc sur l'île de la Cité, en plein milieu de la capitale. Je vous parlais tout à l'heure de ces décors polychromes dont Pierre-Yves Le Pogam nous disait à l'instant qu'ils étaient du 19e siècle. Je me trouve juste à côté d'une colonne ornée des tours qui sont le symbole même de Blanche de Castille. Vous savez que Blanche de Castille était la mère de Louis IX. Louis IX, fils de Louis VIII et de Blanche de Castille, il était né à Poissy en 1214. Son père meurt très tôt alors qu'il n'a que 12 ans et c'est donc sa mère, cette très pieuse Blanche de Castille, qui va exercer la régence jusqu'à sa majorité en 1234. Il vit ici, Louis IX, au palais de la Cité, donc sur cette île de la Cité qui avait abrité le pouvoir, disons-le, depuis l'Antiquité. C'est le siège de la royauté au 10, 11, 12, 13, 14e siècle. Bien entendu, on va y installer la chancellerie, le parlement, la chambre des comptes, les trésors des chartes, c'est-à-dire ce qui est l'ancêtre de nos actuelles archives, bien entendu. Vous savez à quel point Louis IX, le futur Saint-Louis, est un souverain très religieux. Comme un clerc, il suit les offices en s'aidant d'un livre d'heures, le seul qu'il lisait, nous dit en l'occurrence Olivier Anne. Il se lève la nuit pour chanter les matines, entouré de ses chapelains, surveille son langage pour éviter les paroles vaines et multiplie les jeûnes et les macérations chaque vendredi, ainsi qu'en carême. On est en présence d'un personnage qui est vraiment très religieux. Alors, c'est cette ferveur religieuse qui va animer Saint-Louis lorsqu'il décide de la construction de la Sainte-Chapelle. Et vous allez voir qu'elle est construite pour une raison bien précise. Il se trouve que, aux alentours de 1241, Saint-Louis vient d'acquérir des reliques inestimables et il faut à ce trésor de la chrétienté, il faut un écrin. Et l'écrin, ce sera cet écrin de verre fabuleux de la Sainte-Chapelle. La couronne de France, disons-le, il faut le rappeler, est très prospère en ce XIIIe siècle. Vous savez, dans son ouvrage « La France et son rôle dans l'histoire de la civilisation », Robert Barou disait que l'apogée, le véritable apogée de la France, c'était la France du XIIIe siècle, c'était justement cette France de Louis IX. Eh bien, les fonds considérables dont la couronne de France dispose à cette époque vont lui permettre de se procurer la relique la plus convoitée de la chrétienté, la sainte couronne d'épines, cette couronne que le Christ portait au moment où il est monté sur la croix. En général, il est très très rare, vous l'imaginez bien, que de telles reliques soient mises en vente, j'allais dire, se retrouvent sur le marché en employant un anachronisme. Mais en l'occurrence, il se trouve que le 5e empereur latin de Constantinople, il s'appelait Baudouin de Courtenay, Baudouin II de Courtenay, doit faire face à des dépenses militaires faramineuses. Vous savez, il faut dire que Constantinople a subi bien des problèmes. En 1204, il y a eu évidemment l'invasion par les Vénitiens au moment de la 4e croisade. Et puis, il y a eu la mise à sac de la ville par les Bulgares en 1235. Et aux alentours de 1237, l'empereur se rend compte qu'il ne peut plus faire face à un certain nombre de dépenses. Et donc, il va se rendre en Europe pour mettre en vente un certain nombre de ses possessions afin d'éponger ses dépenses. Il doit même se résoudre à mettre en gage chez les Vénitiens son bien le plus précieux, cette fameuse Sainte Couronne. Eh bien, j'allais dire Saint-Louis, Louis IX ne peut pas laisser passer une telle occasion. Il décide de rembourser la dette de Baudouin II en échange de la précieuse relique. Alors, le prix auquel il va l'acheter est tout à fait exorbitant. C'est un prix absolument faramineux pour l'époque, 135 000 livres. Je vous dirai tout à l'heure combien a coûté la construction complète de la Sainte-Chapelle et vous comparerez 135 000 livres. Évidemment, c'est une transaction qui a une double portée, religieuse bien entendu, puisque ça assoit la France dans sa position de fille aînée de l'Église, mais aussi une position politique, puisque ça va permettre à Saint-Louis de se poser sinon en créancier, mais du moins en soutien de cet empire latin de Constantinople. Alors on envoie une délégation récupérer la couronne, bien entendu, auprès des Vénitiens, et le roi, avec sa famille, avec son frère Robert d'Artois, avec l'évêque Dupuy et l'archevêque de Sens, va se porter au-devant de ce trésor religieux. C'est un moment tout à fait extraordinaire de ferveur. Vous imaginez à quel point la population de l'époque et cette famille royale et ce roi sont dans la dévotion totale de cette sainte relique, cette couronne d'épines qui, le 13 août 1239, sera donc déposée ici, quand je dis ici, dans ce qui était à l'époque la chapelle du palais, la chapelle Saint-Nicolas. Il va falloir néanmoins bientôt, parce que Louis IX ne se contente pas de la couronne d'épines, bientôt il va acheter d'autres reliques, un fragment de la vraie croix, un échantillon du Saint-Sang, des morceaux du Saint-Suaire. Il va falloir donc, un écrin à la hauteur de tout cela. Et Saint-Louis va débloquer, si je puis dire, des sommes, des crédits très importants pour réaliser son grand œuvre. On ne connaît pas la date exacte du début des travaux, c'était entre 1241 et 1244. Ce qui est certain, c'est la date de la fin des travaux. On était le 26 août 1248, au moment où la chapelle a été consacrée. Alors à cette occasion, c'est le légat du pape en personne, Eudes de Châteauroux, qui a dédié la chapelle haute à la Sainte Croix, chapelle haute réservée au roi, à sa famille, à ses invités. Et puis, la chapelle basse, au même moment, va être consacrée par l'archevêque de Bourges, Pierre Berruyer. Elle est consacrée à la Sainte Vierge. Pour ces travaux, l'ensemble des travaux, on parle donc d'un coût d'environ 40 000 livres. Je vous parlais tout à l'heure pour le prix de la couronne de 135 000 livres. C'est vous donner une idée de l'importance du sacrifice qui a été fait pour acquérir ce trésor religieux. Dans un instant, nous allons prendre le petit escalier à vis qui nous mènera dans la chapelle haute, dans le véritable trésor de Paris.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous vous retrouvons, Franck Ferrand, pour cette émission spéciale depuis la Sainte-Chapelle, où vous vous apprêtez d'ailleurs, Franck, à découvrir la chapelle haute.
Le grand moment est arrivé, Céline. Nous vous faisons vivre ça en même temps que nous le vivons. Nous arrivons donc en haut de ce petit escalier à vis qui mène de la chapelle basse à la chapelle haute. Et alors là, c'est le ravissement. Un ravissement qui est un tout petit peu diminué ou caché aujourd'hui parce qu'il y a des échafaudages le long d'un certain nombre de grandes verrières, notamment sur la paroi nord, afin de restaurer, bien entendu, ces extraordinaires chefs-d'œuvre tout droit issus du XIIIe siècle. Alors, il faut, Pierre-Yves Le Pogam, que vous nous racontiez un peu ce que nous avons sous les yeux. On est au XIIIe siècle et les architectes de l'époque sont capables d'édifier cette gigantesque maison de verre. C'est incroyable.
Alors effectivement, ce qui est frappant ici, c'est cette cage de verre, comme on l'a souvent dit. Le fait qu'on est comme dans une sorte de chasse aussi. C'est la comparaison qui a souvent été faite.
C'est comme un reliquaire, une chasse, exactement. Une grande chasse, sauf qu'elle serait d'une taille évidemment gigantesque.
Oui. Et alors la grande idée des architectes, c'est d'avoir supprimé à l'extérieur, là on ne l'a pas vu parce qu'il pleuvait beaucoup aujourd'hui, mais il n'y a pas d'arc-bouton à la Sainte-Chapelle, ce qui est une grande nouveauté. C'était l'idée au fond de diminuer au maximum les ombres éventuellement portées à l'intérieur et de trouver du coup d'autres systèmes de contrebutement. C'est pour ça qu'on a vu en bas cette chapelle basse très solide, très forte. Et c'est pour ça qu'on voit en haut également toute cette structure très solide faite de barres de fer qui traversent l'édifice et qui le maintiennent, qui le chaînent en quelque sorte pour le maintenir solidement malgré sa hauteur vertigineuse.
Ce qui est frappant ici, j'allais dire en temps normal, parce que comme aujourd'hui il ne fait pas très beau, évidemment la lumière est un peu maigre. Il faut bien dire que nous avons un jour qui se fait un peu prier aujourd'hui. Mais en temps normal, lorsque le soleil donne sur cet ensemble unique de verrières, on a l'impression d'une lumière quasiment solide, oui. Totalement différente. Oui. L'atmosphère qu'on respire dans cette chapelle haute de la Sainte-Chapelle de Paris est tout simplement magique ou sacré, comme on voudra.
C'est très immatériel. Et alors, c'est ça qui est bien, parce que même en période, au fond, un peu sombre comme aujourd'hui, c'est très changeant. C'est ça qui est extraordinaire. On a une lumière qui peut être un peu... qui est très tamisée par la couleur, en plus. Donc, ça nous donne parfois, quand il fait un peu sombre, comme aujourd'hui, quelque chose d'assez intime, au fond. Et puis, par moments, quand le soleil arrive, c'est au contraire tout à fait céleste. On a l'impression de se trouver en plein milieu de la voûte céleste.
Quand on voit les clichés de Stéphane Compoint, on est frappé, justement, par... cette luminosité, j'allais presque parler, Catherine Lalanne, d'irradiation.
Ah, tout à fait. Il a pu monter son ballon à 20 mètres sous les voûtes et dans la lumière d'hiver, puisque c'est pendant l'hiver qu'il est resté des journées entières à photographier ses vitraux, ce qui l'a frappé, c'est l'extrême fractionnement des couleurs. Et ces 1113 pièces bleues et rouges font un scintillement qui irradie, vous avez raison, qui irradie les images.
On ne voit presque plus entre les verrières, on ne voit presque plus la pierre d'une certaine manière.
C'est ça, le mur disparaît au profit de la pierre. Alors, il faut préciser pour les auditeurs qu'il y a quelques mètres de pierre dans la partie basse, le soubassement en quelque sorte. Et puis au-dessus, voilà, il n'y a plus de mur, ce sont des colonnes, des colonnettes. Et entre ces colonnettes, eh bien, les vitraux qui prennent la place du mur.
Alors la châsse principale, elle se trouve évidemment dans le cœur, hein, juste devant une sorte de... Il y a une, deux, trois, quatre, cinq immenses verrières. Combien y en a-t-il en tout de ces verrières ?
Alors c'est facile. Il y en a 8 dans la nef, ce que on peut appeler la nef, oui, de l'édifice. Et dans la partie orientale, dans le chœur, il y en a 7. Donc 8 et 7, 15 si je compte bien, plus évidemment la grosace qui est derrière nous.
Et elles sont très hautes. Hein. Ça fait combien, ça doit faire quelque chose comme une bonne douzaine, quinzaine de mètres. Hein.
Oui, c'est ça. Elles sont très élancées et très fines également, hein, notamment celles de l'abside, celles du chœur, qui sont très étroites. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que l'architecte a pensé d'ailleurs, malgré cette hauteur vertigineuse et malgré les voûtes d'ogives qui pourraient nous les cacher, chercher à ménager son architecture de façon très précise, en calculant ses effets, afin que la lumière éclate. Visibilité des verrières soit maintenue jusque dans la partie haute. Tout est très calculé ici.
C'était bien la chapelle du palais, néanmoins. On était au cœur même là, de la cité royale, d'une certaine manière. Aujourd'hui, on est au cœur de la cité judiciaire de Paris, on est au cœur du palais de justice. Ça ne rend pas les choses faciles, bien entendu, parce que pour visiter la Sainte-Chapelle, eh bien, il va vous falloir montrer patte blanche et passer les différents barrages de sécurité tout à fait naturels dans un palais de justice, bien entendu. Alors, dans un instant, avec Claire Babet, qui connaît les vitraux comme personne, nous allons décrire ces verrières. Elles se lisent dans un certain sens, j'imagine. Il y a évidemment toute une histoire. Hein, tout ça correspond à un ordre.
Alors elles ont un ordre tout à fait logique. Elles racontent l'Ancien Testament, notamment en partant du nord et en revenant vers le sud. Mais dans l'abside, les verrières ont un ordre un peu différent, et notamment l'axe central, celui qui est derrière la grande châsse où se trouvaient les reliques de la Passion, notamment la couronne d'épines, est consacré très logiquement à la Passion. Donc, si vous voulez, ce grand récit, au fond, des origines du christianisme, puisque c'est ça qui est en cause, est interrompu par la Passion, mais évidemment qui lui donne son sens. Et également, cette dernière verrière qui est ici, derrière nous, du côté sud, au contraire, celle-ci, évidemment, est une sorte d'achèvement du récit, puisqu'il est consacré aux verrières des reliques.
Merci beaucoup. Nous allons entrer dans le détail de toutes ces verrières dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et vous êtes toujours Franck Ferrand sur l'île de la Cité à la Sainte-Chapelle en compagnie de vos invités.
Et je suis Céline en compagnie de Claire Babet, qui est maître verrier, qui a participé et qui participe à la restauration de ces extraordinaires verrières de la Sainte-Chapelle. Nous sommes justement, Claire Babet, devant deux des verrières que vous avez restaurées.
Oui, alors le chantier que nous avons en cours en ce moment sur la Sainte-Chapelle de Paris concerne quatre grandes verrières de la nef nord.
Nord, oui. À gauche quand on entre dans la chapelle.
Voilà, et c'est un chantier qui est commencé depuis 2012, que nous finirons cette année. Et donc nous avons sous les yeux déjà deux verrières complètement restaurées que nous avons reposées l'année dernière. Donc ces deux ensembles-là sont composés à peu près de 200 panneaux par baie.
Oui, donc c'est incroyable. Elles font combien? Je ne savais pas dire exactement à l'heure.
Ces baies-là sont très grandes. Elles font à peu près une quinzaine de mètres haut sur un peu plus de 4 mètres de large. Donc chaque baie fait un peu plus de 50 mètres carrés chacune et est divisée en plus de 200 panneaux.
C'est inouï. Donc, voilà, il y en a 15 comme ça. C'est vraiment un ensemble unique. Et la juxtaposition de toutes ces verrières est d'autant plus forte parce qu'on connaît évidemment quelques très beaux vitraux. On pense toujours à Chartres. Il y en a d'autres, évidemment, à Bourges ou autres. Mais là, ce qui est inouï, c'est qu'elles sont toutes collées les unes aux autres, en quelque sorte.
Elles sont toutes collées, puis elles ont toutes une composition avec une alternance de scènes à petite échelle et de fonds colorés à bordure, ce qui fait que l'ensemble nous donne vraiment une impression de kaléidoscope de couleurs. La configuration de l'édifice est renforcée par cette multitude de panneaux, de vitraux.
Et je le disais tout à l'heure, ça transforme même la nature, en tout cas l'apparence de la lumière. C'est stupéfiant.
Oui, il y a vraiment un jeu de luminosité, de couleurs, de vibrations très particulier dans cet édifice.
Les couleurs dominantes, les teintes dominantes sont l'outre-mer, bien sûr, le bleu qui domine, et le rouge, un rouge extrêmement intense. Et puis il y a aussi quand même l'or qui est très présent à travers notamment toutes ces petites fleurs de lys.
Oui, alors c'est vrai que dans les vitraux médiévaux, on a très souvent une présence importante de rouge et de bleu. Parce que la vibration déjà entre le rouge et le bleu, vous le voyez dans la baie d'Axe là-bas, enfin dans la baie juste à côté de l'Axe, on a dans les fonds l'alternance des rouges et des bleus crée une espèce de teinte un peu violine.
Exactement.
Et ça permet de souligner les scènes. Donc ça, c'était très utilisé au Moyen-Âge pour marquer la composition des baies. Mais on a également, effectivement, les fleurs de lys qui sont très présentes et donc toujours sur des verres jaunes or très lumineux.
Et dans les scènes, dans les mandorles, dans les... Comment pourrait-on appeler ça d'ailleurs? Dans les mandorles, je crois qu'on peut
tout
dire.
À fait,
on a des personnages qui, eux, sont de couleurs plus subtiles, si je puis dire.
Alors,
avec notamment des verts et des mauves absolument délicats.
Oui, c'est-à-dire qu'on a une coloration assez simple, on va dire, pour les fonds décoratifs et les bordures. Et ensuite, dans les scènes, on a une multitude de tons. Alors, bien sûr, une multitude, c'est-à-dire qu'on a plusieurs verts, plusieurs jaunes, des rouges très variés parce qu'ils sont fabriqués avec des verres fouettés. Donc, les verriers les ont utilisés de façon à avoir beaucoup de nuances. On a des pourpres de plusieurs intensités avec également des jeux de luminosité en fonction du verre lui-même.
Et c'est que le verre est teinté dans la masse, il faut le dire.
Il est teinté dans la masse et il a des nuances, et les verriers s'en sont servis. Et effectivement, ça permet d'avoir des scènes avec une multitude de couleurs qui permet de marquer les fonds, les différents plans, les personnages principaux, ceux qui sont en retrait. Donc les verriers ont joué à l'époque avec toute cette multitude de couleurs pour composer leur scène.
Pour une mosaïque, on parle de tesse et de tesselle. Quel est le nom de ces petits éléments qui mis ensemble, constituent ce puzzle de lumière ?
Simplement des pièces de verre. Nous, on n'a pas de terme particulier. Ce sont des pièces de verre.
Elles n'ont pas toutes la même forme, il faut bien le préciser.
Elles sont toutes uniques.
C'est ça, voilà. Et il faut arriver à les reconstituer. Alors, lorsque vous avez à les restaurer, est-ce que vous êtes obligé de compenser des manques ? Est-ce qu'il y a des parties manquantes ?
Des parties manquantes parfois, mais elles sont vraiment extrêmement petites. Ce sont des parties qui ont été cassées avec des fragments perdus. Et souvent, ça a été rebouché avec du plomb de casse. Et donc là, on va faire des toutes petites insertions de verre neuf, mais c'est extrêmement discret, c'est vraiment tout petit. C'est-à-dire qu'on conserve l'ensemble de la baie telle qu'elle nous arrive, que ce soit les restaurations du 19e ou antérieures, ou bien sûr les pièces d'origine qui sont totalement conservées.
Alors lorsqu'on y regarde d'un peu plus près, et lorsqu'on oublie, si je puis dire, la splendeur des scènes qui sont animées sous nos yeux, on constate deux types d'armatures. Il y a une armature fixe, en quelque sorte, enfin générale, et puis à l'intérieur de ça, tout un réseau. C'est du plomb, tout ça ?
Alors, dans le vitrail, en réalité, comme on a des très grandes surfaces vitrées, il faut bien sûr redécouper l'ensemble pour pouvoir manipuler les panneaux. Donc vous avez à la fois là, dans les grandes baies, une partition verticale avec des meneaux très très fins qui permettent de séparer les lancettes. Et c'est vrai qu'on les oublie complètement quand on regarde la baie dans son ensemble. Et ensuite, vous avez à l'intérieur de chaque lancette une partition de ferronnerie. Donc avec des serrureries métalliques qui sont en forme et qui donnent la forme de chaque panneau de vitrail.
Et, oui, voilà, oui.
Et ensuite, bien sûr, dans chaque panneau de vitrail, vous avez une multitude de pièces de verre assemblées au plomb. Donc en fait, on est vraiment dans un pulse du tout petit fragment à l'œuvre monumentale.
Ça a l'air tellement fragile. C'est si fragile que ça en a l'air ?
Non, enfin, si, c'est fragile, mais en réalité, c'est quand même une technique extrêmement efficace.
C'est là depuis le XIIIe siècle,
voilà.
Ce qui est tout à fait
inouï. C'est très, très bien conçu. Alors, pour subir les outrages du temps.
C'est une chance pour nous, peut-être pas pour tous les visiteurs, mais pour nous, c'est une chance qu'il y ait cet échafaudage, puisque nous allons y monter dans un instant pour voir ces verrières de très près. Racontez-moi, avant que nous montions sur l'échafaudage, dans quel sens ça se lie, une verrière comme celle-là ? Est-ce qu'il y a un ordre ? Est-ce qu'on commence en haut, en bas, à droite, à gauche ?
Là, c'est un petit peu particulier, puisqu'elles ont été recomposées iconographiquement. Donc on a plutôt des registres de lecture dans ces baies-là. Et il y a des scènes qui ont été rajoutées pour faire un petit peu de remplissage. Mais effectivement, en général, c'est plutôt une lecture. Chaque baie a un peu sa lecture quand même. Ça dépend des édifices et des lieux. Mais c'est souvent de bas en haut.
Et de droite à gauche, si je ne m'abuse.
De droite à gauche, les scènes en général vont ensemble. Là, par exemple, dans la baie 109, on a tout un registre de rois couronnés en bas. Voilà, c'est un registre composé comme ça. Et ensuite, on passe à...
Pour se le rappeler, c'est exactement l'inverse du sens de lecture d'un texte, tout simplement.
Voilà.
Nous montons sur l'échafaudage. Alors, pour nous laisser le temps de grimper jusque là-haut, on va envoyer quelques notes de musique et on se retrouve tout de suite.
De Carmina Burana sur Europe 1 de Karl Orff. Et nous continuons avec vous, Franck Ferrand, à découvrir cette magnifique Sainte-Chapelle où vous vous trouvez avec Claire Babet, qui est maître verrier.
Mais c'est une véritable révélation, Claire Babet. Ce que nous avons sous les yeux est sidérant. Et je disais que ça donne envie de confier aux visiteurs des jumelles pour voir tous ces petits détails qui, d'un seul coup, nous paraissent directement tirés du XIIIe siècle. La verrière, si je puis dire, est beaucoup mieux datée lorsqu'on la voit de très près.
Oui, oui, c'est vrai que nous, on a vraiment, en tant que restaurateur, une chance incroyable de pouvoir apprécier les vitraux dans leurs détails tous les jours. Et il faudrait vraiment que tous les visiteurs puissent s'équiper et regarder scène à scène, parce que les verriers du 13e ont vraiment composé leur baie en mettant des détails absolument superbes partout dans leur
scène. C'est inouï. Alors on voit les plumes des oiseaux, on voit chaque pétale de chaque fleur, on voit même les prunelles dans les yeux des personnages. Je n'aurais jamais cru ça, pour tout vous dire. C'est inouï.
Alors, les prunelles, justement, quand il n'y en a pas, nous sommes obligés de les restituer. Parce que de loin, un œil sans prunelles est complètement vide. Et ça
se sent néanmoins.
Ça se sent, voilà, tout à fait, malgré la distance.
Alors évidemment, bon, les couleurs sont absolument sublimes, même si aujourd'hui nous ne jouissons pas d'une très belle luminosité. Mais ce qui est le plus étonnant lorsqu'on voit tout ça de si près, c'est le détail des tenues, par exemple. Je vois tout un groupe de chevaliers. On a vraiment l'impression d'assister à un tournoi du Moyen-Âge.
Ah oui, oui, mais tout est extrêmement détaillé. Si vous regardez le harnais du cheval, c'était extrêmement fin. C'est-à-dire que le style était bien sûr stylisé, mais tous les éléments fonctionnels, on va dire, de ce qui était représenté, sont bien là. On a l'étrier, le harnais, les rênes, etc. Pour les cottes de maille et les drapés, c'est pareil. Tout est absolument complet.
Chaque verrière a son armature, avec pour les scènes de temps en temps des losanges ou des ronds, des disques ou des mandorles quadrilobées ou polylobées d'ailleurs. Oui, certaines sont en amande, enfin il y en a de toutes les formes. Oui, oui. On voit, entre parenthèses, j'ai sous les yeux un bleu que je n'avais pas remarqué de loin. C'est-à-dire qu'en dehors de l'outre-mer, il y a parfois un bleu tendre, absolument magnifique, qui fait un peu penser à une couleur un peu turquoise.
Oui, dans ces baies-là, c'était vraiment une très bonne surprise.
C'est là-dedans.
Ouais, c'est tout à fait ça. Dans ces baies-là, quand on a nettoyé les vitraux, on a découvert toute une gamme de verts, justement, entre le vert d'eau et le bleu céladon. Et alors, on ne sait pas si c'est la même fabrication du verre avec des nuances différentes et que les verriers donc s'en sont servis pour rendre différents éléments. Mais en tout cas, on retrouve vraiment ces teintes-là très régulièrement dans tous ces vitraux et c'est vraiment superbe.
Et alors, ce que je découvre derrière cette résille de plomb tout à fait minutieuse, c'est une deuxième paroi vitrée. Ça, c'est très intéressant.
Alors, bien sûr, nous restaurons les vitraux, mais ce qui est absolument fondamental, c'est de les protéger, de les conserver à long terme. Donc là, toutes les phases de chantier qui sont engagées depuis quelques années comprennent la restauration des vitraux et leur protection par une double verrière. Donc là, ce que vous avez, c'est effectivement le vitrail qui est légèrement avancé dans son architecture. Et derrière, vous avez une double verrière qui a été faite par la prise d'empreinte du vitrail et qui est sur une autre serrurerie. Donc entre les deux, vous avez une ventilation. Et ça permet de conserver le vitrail à long terme.
Ah bravo, ça c'est bien. Vous préparez l'avenir. Quand vous restaurez comme ça une verrière, quel est votre travail ? C'est un travail de verrier, c'est un travail de peintre, c'est un travail de serrurier ou un petit peu tout ça à la fois, j'imagine.
Oui, il y a un côté très pratique, bien entendu, mais il y a aussi un travail. Il faut avoir un œil un petit peu artistique, connaître très bien la peinture sur verre et la composition. Il faut aussi être un peu chimiste parce qu'on a au niveau des nettoyages des protocoles très précis à appliquer. Enfin voilà, il faut être en questionnement en permanence et en même temps avoir bien sûr une connaissance pratique très poussée du métier. Et ça demande de multiples compétences et on est aussi une équipe multiple à travailler sur ces verrières pour faire face à toutes les problématiques.
Là, nous sommes devant des scènes qui représentent évidemment Jérusalem. On a même le veau d'or, on a le buisson ardent. Tout ça est absolument somptueux. Oui. Et ce que je garderai en mémoire, et je vous assure que je ne vais redescendre de cet échafaudage qu'à regret, c'est l'envol de toutes ces colombes multicolores sur fond d'un rayonnement pourpre et incarnat. C'est absolument somptueux. On en prend plein la vue.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et vous vous trouvez cet après-midi, Franck Ferrand, sur l'île de la Cité à la Sainte-Chapelle, où vous êtes, je crois, redescendu de l'échafaudage.
Non seulement nous sommes redescendus de l'échafaudage, mais nous sommes sortis de la chapelle haute pour être sur la tribune, plus exactement sur le porche haut de cette chapelle qui donne directement sur les galeries du palais, ce qui permettait évidemment au roi et à sa famille, sortant de leurs appartements, d'aller directement dans la chapelle. Alors, je me disais, Catherine Lalanne, en voyant la splendeur de tous ces petits détails, jusqu'à la mèche de cheveux, jusqu'aux cils quasiment, qu'il y aurait encore un autre supplément à faire pour pèlerins. Après avoir vu la splendeur inouïe des ensembles par Stéphane Compoint, ce serait amusant d'aller voir maintenant le détail de toutes ces merveilles.
Tout à fait, même si déjà nous avons, grâce à ce ballon, pu zoomer
sur quelques détails,
des médaillons, des panneaux, et voir à quel point l'Ancien Testament est présent, l'histoire du peuple hébreu est présente dans ces médaillons.
Et qui dit Ancien Testament et histoire du peuple hébreu dit aussi d'ailleurs violence. Car ce qui est frappant sur toutes ces scènes, c'est de voir à quel point il est question de coups d'estoc et de taille. Il y a des épées et des armes quasiment sur toutes les verrières.
Tout à fait. Les combats sont omniprésents.
Alors, il faut que nous parlions de Saint-Louis et de cette exposition qui vient de s'ouvrir juste à côté d'ici à la Conciergerie. Quand je dis juste à côté d'ici, dans le même monument, d'une certaine manière. Que peut-on voir, Pierre-Yves Le Pogam, dans cette exposition Saint-Louis ?
Alors, on peut voir beaucoup de choses puisqu'on est dans le palais du roi, où on reconstitue évidemment une sorte de parcours qui illustre la grandeur de ce règne, de ce personnage très complexe. Et puis, puisqu'on est à la Sainte-Chapelle ici, j'aimerais bien mettre l'accent au fond sur le fait que cette exposition permet aussi de revenir ou de revoir différemment encore la Sainte-Chapelle, puisque nous montrons aussi 12 petits panneaux de vitraux absolument inédits que Claire a restaurés justement et qui proviennent de ces grandes verrières restaurées au milieu du 19e siècle.
Alors évidemment, un certain nombre des 140 œuvres présentées dans cette exposition, le terme présenté est d'ailleurs insuffisant parce qu'elles sont littéralement magnifiées, il faut le dire, c'est particulièrement réussi, proviennent du Louvre, de la Bibliothèque Nationale de France, etc. Mais vous avez aussi des pièces qui arrivent d'un peu partout dans le monde, et notamment d'Italie bien sûr, d'Assise, du Vatican.
Notamment d'Italie, oui, parce que Saint-Louis avait des rapports, il n'est jamais allé en Italie, sauf, j'allais dire, une fois mort, où il a son convoi funéraire à remonter par le long de la péninsule italienne, mais il avait des rapports très étroits avec l'Italie et notamment avec les franciscains et les dominicains, deux ordres dont l'un était né en Italie, évidemment François d'Assise, et l'autre, les dominicains, était fortement implanté en Italie.
Je parlais tout à l'heure d'apogée pour ce XIIIe siècle et ce siècle de Saint-Louis d'une certaine manière. C'est ce qui m'a frappé en visitant avec vous cette exposition. Il faut dire que vous en parlez divinement et j'ai trouvé que les œuvres présentées étaient quasiment indépassables par leur perfection, par leur rayonnement, par la vie qui les habite.
Oui, alors c'est un moment d'apogée, on l'a souvent dit, c'est un moment de classicisme, d'harmonie, d'équilibre. Tous ces termes reviennent très souvent sous la plume de tous les gens qui ont étudié et regardé ces œuvres. Et je dirais une autre chose encore, ce qui me frappe maintenant, c'est peut-être la diversité également. Parce que dans toute cette époque qui montre des œuvres, des chefs-d'œuvre absolus, il y a pourtant des tendances très différentes avec des œuvres qui vont plutôt vers une perfection classique, j'allais dire, comme certains des apôtres de la Sainte-Chapelle qui sont derrière nous, et d'autres au contraire qui annoncent des tendances plus expressives, des choses d'ailleurs qu'on voit déjà aussi quelque part dans certains
vitraux. Un peu maniériste, avec
déjà,
des figures qui sont très longilignes, des drapés absolument vertigineux. La Renaissance et même l'art baroque de Bernin ne feront pas mieux.
Tout à fait, il y a quelques chevelures ébouriffées,
oui,
qui montrent très bien des artistes qui ont des pensées, si vous voulez, très différentes. Donc il y a un art d'une cohérence extraordinaire parce qu'on voit qu'il y a un grand commanditaire, il y a une cour royale très importante, mais au fond, un vivier d'artistes tellement extraordinaire qu'on a des tendances un petit peu variées.
Quelque chose de rayonnant aussi, c'est le terme qu'on retiendra finalement.
Alors ce terme bien sûr vient des vitraux, puisqu'on a ces roses qui rayonnent, mais cette idée de rayonnement, elle est aussi une très belle métaphore pour illustrer au fond la force de cet art qui a aussi rayonné d'ailleurs sur l'ensemble de l'Europe.
Un art qui s'est libéré d'une certaine manière. On a l'impression qu'après tous ces siècles d'art roman et du premier gothique en quelque sorte, qui restait encore totalement fondu dans l'architecture, d'un seul coup tout ça se libère, c'est comme si ça sortait des murs, ça sortait des colonnes et ça prend une autonomie.
Oui, alors il y a des raisons techniques d'un côté, évidemment. Et puis il y a aussi le fait que c'est un moment où on redécouvre le monde. On regarde les plantes, on regarde les animaux, on regarde le corps humain. Et pour la première fois, on ose et on a envie de représenter un corps humain tel qu'il est.
Alors il y a trois parties dans l'exposition. Il y en a une qui est consacrée justement au mythe Saint-Louis, si je puis dire. Parce que Dieu sait que le personnage est devenu quasi légendaire. C'est peut-être ce qui attire d'abord la foule, disons-le.
Tout à fait, c'est un nom qu'on connaît vaguement, on a appris à l'école, on connaît l'idée du chêne.
Saint-Louis-sous-son-chêne à Vincennes.
Saint-Louis-sous-son-chêne, alors qui est une réalité d'ailleurs, hein. C'est pas une invention, ce n'est pas une légende, mais ce que nous avons voulu faire, c'est effectivement, non pas déconstruire le mythe, tout simplement montrer qu'au-delà du mythe, il y avait un homme, et peu à peu, en remontant le temps, depuis ces images assez extraordinaires du 19e siècle, revenir vers la réalité d'un homme qui fut très complexe.
Je le disais tout à l'heure à Claire Babet, devant la verrière, Jérusalem est très présent. Cette Jérusalem terrestre et céleste se trouve également au cœur de l'exposition.
Tout à fait. L'idée de l'exposition est de montrer également ces rapports entre foi et pouvoir qui sont si essentiels au Moyen-Âge. On le sait, c'est banal. Mais pour Saint-Louis, ça revêt évidemment une force d'autant plus grande qu'il est au fond le plus grand roi d'Occident, mais qu'il est en même temps quelqu'un qui toute sa vie a cherché à être saint. Et la conciliation de ces deux idéaux extraordinaires n'était au fond pas si évidente.
C'est lui qui accueille les visiteurs quand on arrive. Est-ce que le portrait est ressemblant ?
Alors non, parce qu'on est dans une époque qui est encore au moment du balbutiement, mais dans un sens tout à fait noble, au moment où on cherche à comprendre qu'est-ce qu'est un être humain et où l'individu prend une place nouvelle. Mais on n'est pas encore dans le portrait réaliste, loin de là.
Alors ce qu'il y a aussi de passionnant, c'est tout ce que nous apprennent les arts de l'époque sur la vie. Vous avez appelé ça le miroir du monde, en quelque sorte. Ça, c'est assez intéressant pour un visiteur du 21e siècle.
Oui, ce mot de miroir, il vient tout simplement du grand conseiller spirituel de Saint-Louis, qui était un dominicain, Vincent de Beauvais, qui écrit des encyclopédies auxquelles il donne ce nom de miroir, parce qu'effectivement, c'est le miroir du monde, le miroir dans lequel l'homme cherche à se comprendre mieux.
La religion est plus que présente. Nous avons dit tout à l'heure qu'elle a été la piété de Louis IX, qui a été canonisée d'ailleurs extrêmement vite, peut-être pour des raisons au moins aussi politiques que religieuses, mais en tout cas, il avait cette dimension-là. On est à une période où la religion imprègne tous les esprits et domine complètement la société, le monde, la politique elle-même.
Oui, alors c'est une... Tout à fait, on baigne dans la religion et Saint-Louis est un roi pieux, au point évidemment qu'il est canonisé de manière assez, d'ailleurs je dirais au fond rapide, pas tant que ça, nous ça nous paraît rapide 27 ans, mais au fond pour l'époque c'était un peu lent déjà,
parce qu'on
mettait en place les procès de canonisation, c'est la première fois,
et oui, c'est vrai,
mais au fond c'est un vrai saint et il a été reconnu assez rapidement comme tel.
Il faut, Catherine Lalanne, insister sur cette dimension du personnage. On a dit tout et son contraire sur Saint-Louis et il faut revenir sur le bonhomme, ce que vous faites, vous, bien sûr.
Tout à fait, et en plus je dirais que les images montrent à quel point, quand on survole la Sainte-Chapelle, à quel point la Sainte-Chapelle est imbriquée dans le palais de Saint-Louis, comment Saint-Louis a voulu enchâsser ce joyau dans les murs du palais, comment il ne veut pas séparer la royauté des reliques. On voit à quel point, si vous voulez, c'est un acte de piété, mais aussi un acte politique d'inclure cette chapelle dans le palais.
Comme s'il tenait son pouvoir. On disait que le roi de France, par la grâce de Dieu, hein, qui était sacré à Reims, bien entendu, toute la mystique de la Sainte Ampoule, mais comme s'il tenait lui-même son pouvoir, non seulement de Dieu, mais quasiment de ses reliques, hein, et de cette sainte couronne d'épines qui est au cœur du palais, d'une certaine manière.
Exactement. Et on le voit par l'édification du bâtiment au cœur du palais, on le voit encore dans les vitraux que vous voyez tout à l'heure, combien il s'inscrit dans la généalogie, la filiation des rois de Juda. On voit ce grand souci de légitimation de Saint-Louis par rapport à l'Ancien Testament.
Est-ce que vous avez une idée de la façon dont vos lecteurs, les lecteurs de pèlerins aujourd'hui, perçoivent Saint-Louis ? Est-ce qu'il est considéré, bon, comme un roi de France, c'est une évidence, mais aussi comme un saint et comme un modèle religieux ?
Alors, nous avons eu l'occasion à trois reprises dans l'année d'honorer la mémoire de Saint-Louis. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que sa pensée et sa piété, nous avons pu la développer dans nos colonnes. Oui, nous avons eu un courrier abondant et nourri sur la spiritualité de ce grand roi.
Où sont-elles les reliques aujourd'hui ?
Alors, les reliques de Saint-Louis principal, c'est-à-dire son corps, a disparu à la Révolution, il faut bien le dire.
Ah, mais ça, bien, oui.
Quoique les révolutionnaires l'aient beaucoup pourtant apprécié, d'une certaine manière. Mais enfin, il reste des reliques importantes, notamment à Versailles, à Saint-Denis. Et puis,
Des saintes reliques, pardon.
Les saintes reliques acquises par Saint-Louis, pardon. Donc la couronne d'épines notamment, elle est bien sûr à Notre-Dame de Paris.
À Notre-Dame. Il y a un mystère quand on est ici à la Sainte-Chapelle, c'est celui de de la construction même de l'édifice et de son auteur. On a pendant très longtemps, moi j'avais appris ça à l'école, on disait que c'était Pierre de Montreuil qui avait construit, le grand architecte du règne de Saint-Louis, qui avait bâti la Sainte-Chapelle. Et aujourd'hui, on revient sur cette idée.
Oui, alors c'était une idée assez séduisante parce que Pierre de Montreuil...
C'est logique, disons.
C'est logique parce que c'est un grand architecte connu, donc on lui attribuait évidemment le plus bel édifice de l'époque. Mais les historiens de l'architecture notamment, et depuis longtemps, notamment des amis allemands, ont démontré que c'était peu possible, très peu probable, pour des raisons tout simplement stylistiques. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, la diversité de l'expression stylistique existe à ce moment-là. Et le style des édifices de Pierre de Montreuil est assez différent de la Sainte-Chapelle.
Les architectes avaient tendance à s'effacer à l'époque, évidemment. C'était d'ailleurs plutôt des écoles.
Que oui, des... Enfin, je dirais surtout qu'on n'a plus les archives qui nous livraient leur nom. Hein. Les architectes, parfois, étaient connus. Pierre de Montreuil était tellement célèbre qu'on avait laissé sur sa pierre tombale l'idée qu'il était le docteur des pierres.
On est ici donc sur le porche haut de la Sainte-Chapelle. On avait, je disais tout à l'heure, directement accès au palais par ici. Est-ce que les deux chapelles fonctionnaient ensemble ou séparément, si je puis dire ?
Alors, les deux chapelles fonctionnaient essentiellement séparément. C'est pourquoi ce que vous nous avez fait tout à l'heure, de monter par ces petits escaliers, est au fond tout à fait extraordinaire. C'était une intrusion dans le monde royal. Nous sommes
C'est-à-dire
ici au niveau supérieur.
En bas, c'était la paroisse ?
En bas, c'était la paroisse, réservée également à toute la communauté des gens du palais. Hein, tous ces gens qui s'activaient ici, qui étaient très nombreux, bien sûr.
Eh bien voilà, d'une certaine manière, on peut dire que la boucle est bouclée. Merci beaucoup de nous avoir fait revivre tout ça, Pierre-Yves Le Pogam. Et je conseille à nos auditeurs, évidemment, de courir voir cette exposition qui se tient à la Conciergerie pendant longtemps encore.
Jusqu'au 11 janvier.
Jusqu'au 11 janvier. En même temps, on n'a pas tant de temps que ça. Merci beaucoup, Catherine Lalanne. C'est toujours un plaisir de faire des émissions avec vous. Vous nous emmenez dans les endroits les plus inouïs. Et ce numéro de pèlerins et de ceux qu'on doit garder, car il est vraiment, comme on dit, les collecteurs.
Merci beaucoup, Franck Ferrand.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Romain. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Il nous dit que cet été, il a passé des vacances dans un village où l'on sonnait les cloches tous les quarts d'heure, alors que dans certaines églises, c'est uniquement toutes les heures. Il aimerait savoir pourquoi.
Voilà une question qui est tout à fait cohérente avec les lieux, bien entendu. Alors, vous savez que pendant longtemps, les cloches des églises faisaient vraiment partie du quotidien. À une époque où il y avait infiniment moins de pendules et de montres qu'aujourd'hui, maintenant on a l'heure partout, littéralement. Mais à l'époque, c'est ce qui rythmait la vie des gens. C'était donc extrêmement important. Et puis, dans les moments graves, on sonnait le tocsin. Dans les moments de deuil, on sonnait le glas, etc. Ça faisait... On peut dire que toutes ces cloches rythmaient la vie de nos ancêtres. C'est à la Révolution que ces cloches vont devenir évidemment une source de conflit. Un décret du 23 juillet 1793, là on est en plein dans la terreur, va ordonner la réquisition de toutes les cloches de France, notamment pour en fondre une partie et utiliser le métal. Il faudra attendre la signature du concordat entre le pape et le premier consul, donc il faut attendre 1801 pour que les autorités religieuses aient de nouveau la liberté de réglementer leur sonnerie. Alors maintenant, nous sommes sous l'empire de la loi de 1905, bien entendu. Ce ne sont plus les paroisses, ce ne sont plus les prêtres qui gèrent la question des cloches dans les villes et dans les villages de France. Ce sont les maires, bien entendu, alors en accord, évidemment, avec la paroisse. Et lorsque le maire et le curé n'arrivent pas à se mettre d'accord, pour tout vous dire, eh bien, la loi a prévu, évidemment, ce cas de figure. Et dans ce cas-là, c'est le préfet qui, par arrêté, va gérer la question, bien entendu. Aujourd'hui, les cloches sonnent donc, alors ça dépend, les heures très souvent, les demi-heures de temps en temps, les quarts d'heure plus rarement. Elles sonnent généralement le jour, entre 7h et 22h. Mais je connais, moi, quelques villages où elles sonnent aussi la nuit. Et dans ces cas-là, je vous assure qu'il faut avoir le sommeil assez lourd.